Chers amis, bonjour. Le printemps a fait son apparition, quelle merveille. Mais comme rien n'est jamais dans ce bas monde parfait, eh bien en même temps, on nous annonce des guerres dans les auxquelles on va participer. Véziane de Vézin, qui était journaliste au Figaro, a écrit hier sur sa page Facebook, mais c'était avant, bien sûr, hein, que notre président de la République, un petit peu comme les éoliennes, remet ses bras. C'était, voilà. Mais bien, aujourd'hui, c'est pas du tout comme les éoliennes. On est très, très sérieux. Il est chef de guerre, enfin. Et donc, voilà. Donc, il y a ça. Il y a toutes les horreurs qu'on a découvertes dans les îles et dans les villas et dans les, et même avenue Foch à Paris, mon Dieu, c'est épouvantable. Donc, je ne vais pas vous en parler. Je vais aujourd'hui sacrifier à la beauté. Alors, c'est la beauté de ce printemps avec toutes ces petites fleurs qui, de manière extraordinaire, au jour près, renaissent le même jour dans nos jardins. C'est tellement merveilleux. Et donc, aujourd'hui, j'avais prévu, et donc, je le fais malgré tous ces bruits de bottes. On dit plus bruit de bottes, d'ailleurs. On doit dire, je sais pas quoi, bruit de... Je sais pas.
De drones.
Voilà, tous ces frôlements de drôles et ça. Malgré ça, je vais donc persévérer dans l'idée que j'avais eue aujourd'hui d'inviter quelqu'un que ceux qui sont familiers de Radio Courtoisie connaissent, mais comme disait notre fondateur, des auditeurs naissent tous les jours, donc peut-être que des gens encore ne la connaissent pas, ne les connaissent pas du reste, puisque c'est Christine Sourgens, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle « Anatomie de la beauté ». Donc, c'est merveilleux déjà en soi. Et je me suis dit, bon, allez, je vais le lire. Je l'ai lu et il m'a totalement émerveillée, passionnée. Donc, je serais tout à fait heureuse de partager avec vous cet excellent moment de lecture que j'ai eu. Et puis, nous attendons Aude de Kéros. Je ne la vois pas venir, donc j'espère qu'il n'y a pas soit un malentendu et qu'elle nous attende par téléphone, auquel cas on le saura d'ici tout à l'heure, ou qu'elle n'est pas dans un embouteillage. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, il n'y en a pas, car moi-même, tombé du lit, littéralement, à midi moins le quart, j'ai réussi à être ici à 2h moins le quart, ce qui est un exploit, compte tenu de ce qu'est devenu Paris. Mais je dois dire, mais c'est les vacances scolaires, peut-être oui. C'est ça, mais oui, oui, c'est pour ça. Alors, donc, l'émission d'aujourd'hui, donc, qui s'appelle « La tête hors de l'eau », « Comment tenir la tête hors de l'eau », c'est ça. Et l'émission de demain seront consacrées au beau et au laid. Alors, vous avez de la chance, aujourd'hui, c'est le beau. Demain, ce sera le laid, mais ce sera très intéressant tout de même. Et donc, pour le beau, eh bien, pour résumer la situation, j'ai intitulé « Face à l'imposture de l'art contemporain, la beauté du monde », parce que, eh bien, je crois me souvenir, et d'ailleurs, Christine Sourgens, qui est là, merci d'être là, Christine.
Bonjour, Catherine Revier.
Vient de me le confirmer. Depuis, j'ai pris connaissance des merveilleuses près des plaisanteries de Christine Sourgens, qui, avec Aude de Kéros, tenait un journal, tiennent toujours, un journal sur Radio Courtoisie. Et j'ai été pliée en deux de rire de l'entendre se moquer.
D'un certain art dit contemporain.
Voilà,
d'un certain art. Il faut toujours préciser que c'est un mot piégé, parce que normalement, contemporain, c'est l'art des artistes vivants. Voilà. Et donc, votre voisine qui fait de l'aquarelle fait partie de l'art contemporain, mais en réalité, c'est un label et qui est réservé à des gens qui font de l'art officiel, qui descendent, qui est un art conceptualisant, qui descend du champ et qui est volontiers un art financier aussi.
Voilà.
Donc c'est quelque chose de très, très particulier.
Absolument. Le bidet du champ, non, c'était les toilettes ou le bidet, je ne me souviens plus.
C'est un urinoir.
Un urinoir qui date de
1917. C'est quand même le coup d'envoi de l'art contemporain.
En
1917,
effet.
Vous voyez, ça s'appelle toujours contemporain. Donc, c'est dire s'il y a une imposture, même déjà dans le titre.
Alors, votre livre, donc, c'est Christine Sourgens, c'est Anatomie de la beauté. C'est paru en septembre 2025 et c'est Bolaine éditeur.
Bolaine.
Voilà. Et les autres aussi, parce que.
Ah, tout à fait. Oui.
D'accord.
Oui,
donc, on va tout de suite le dire. Christine prépare d'autres ouvrages sur la beauté. Tous.
Oui, c'est une saga.
Oui.
Donc, il y aura 5 ouvrages. Les 5 ouvrages se complètent. Et ne se répètent pas. Ils sont autonomes. On peut les lire un par un sans avoir lu les autres. Mais enfin, bon, c'est bien aussi si on les lit dans la foulée.
Ouais.
Et donc là, le premier est paru, c'est Anatomie de la beauté. Le deuxième aussi, Géographie de la beauté. Alors, il faudra préciser que ce n'est pas du tout un livre sur l'histoire des styles à travers la planète, etc. Non, ce sont les régions, les terroirs à partir desquels on peut construire, on peut fabriquer de la beauté ou pas, d'ailleurs. Et le troisième, d'ailleurs, va apparaître ce mois-ci, donc le 18 mars, toujours aux éditions Bolaine, Bienfaits du beau. Alors, ça sera vraiment tous les bienfaits du beau. Alors, ça commence avec Aristote, hein, la catharsis, puis il y a Freud aussi, la sublimation. Et puis
attendez, ne dites pas tout, parce que...
Il y a l'art thérapie, non mais voilà, et puis il y a les voies spirituelles du beau.
On va y arriver.
Et puis, on terminera par la fameuse question de Dostoïevski, est-ce que la beauté sauvera le monde? Et puis ensuite, il y en aura deux autres. Il y aura Beauté singulière. Alors là, les beautés singulières, c'est la beauté des nus, c'est la beauté de la croix, c'est la beauté du mal, enfin c'est la beauté du diable. C'est toutes les beautés qui fâchent, hein, toutes les beautés qui posent problème. Et puis le dernier, Guerre à la beauté. Alors là, ça sera effectivement... évidemment, on retrouvera l'art contemporain, mais pas seulement, parce qu'en ça fait longtemps que la beauté a des ennemis, et ça fait longtemps que la guerre contre la beauté est déclenchée, je dirais, bien avant 1917.
Absolument.
Donc il faudra reprendre tout ça et j'essaierai, parce que moi je suis historienne de l'art, donc j'essaierai de remettre tout ça en perspective.
Alors, Ernest Renan, en 1882, parle de la nation en disant... comme nous savons, et ça a beaucoup nuit en réalité, est un plébiscite de tous les jours, sans lien avec la race ou la religion, etc. Et il écrit « Car au-dessus de tout ça, il y a la raison, la justice, le vrai, le beau, qui sont les mêmes pour tous. » Alors, que n'a-t-il pas dit là? Je pense qu'il était emporté par son lyrisme, mais on va voir que ce n'est pas tout à fait vrai. Alors, votre livre, ma chère Christine, ce livre, je dois le dire, alors ça va peut-être rebuter certains auditeurs, mais pas beaucoup, parce que nos auditeurs sont en général plutôt cultivés. C'est un livre à ne lire que si on a une solide culture. J'avoue que la mienne a été prise en défaut plusieurs fois.
Oui, mais il y a beaucoup de notes.
Sur l'art paysager venu des États-Unis, par exemple, mais même sur...
Le Land Art.
Voilà. Mais même sur Aristote, sur Saint-Augustin, sur Anna Arendt, sur Umberto Eco, dont j'ignorais les écrits sur la beauté.
Ah oui. Sur
Paul Valéry, dans Introduction à la méthode de Léonard de Vinci, j'ignorais totalement qu'il eût écrit cet ouvrage, ou même Derrida, Restitution de la vérité en peinture, Heidegger, L'origine de l'œuvre d'art, Tout ça...
Il y a une longue tradition de réflexion sur le beau qui commence à Platon quand même.
Donc oui, bien sûr. Sujet qui Mais ce que je veux dire, ouais. c'est que bien qu'il y ait une culture, je pense, assez élevée, il y a des choses qu'on apprend qu'on ne sait pas. On apprend un peu toujours les mêmes choses d'Aristote, etc. Et donc, c'est un éclairage différent.
Oui, ce qui prouve qu'on a abandonné la réflexion sur la beauté depuis pas mal de temps. Je crois que c'est ça que ça veut dire.
Ah ben, ça n'est pas inclus dans le cursus secondaire ou universitaire, ça c'est juste.
Et depuis une cinquantaine d'années, elle est systématiquement déconstruite, surtout la beauté artistique, parce qu'il y a plusieurs types de beauté. Il y a la beauté naturelle, bien sûr, la beauté de la nature, la beauté philosophique, avec un B majuscule qui trône dans le ciel des idées de Platon, et qui n'est vue que par la pensée. Et puis, moi, j'ai surtout insisté sur la beauté artistique parce que c'est elle, particulièrement, qui est visée depuis 50 ans.
Alors, il y a des choses encore plus étranges. L'expérience esthétique chez l'animal.
Eh oui, et oui, parce qu'il y a, depuis justement, depuis récemment, un certain nombre d'expériences scientifiques chez l'animal d'une part et dans la neurologie, par exemple la découverte des neurones miroirs qui renouvellent ce qu'on peut savoir sur l'admiration, par exemple, puisque vos neurones se synchronisent avec la personne que vous regardez en train de faire une action. Les mêmes zones de votre cerveau s'allument, même si vous-même ne faites pas réellement l'action. Donc, non, ça... Hein, bon. Et puis, on a fait des tas d'expériences sur les bébés aussi. Les bébés qui regardent plus volontiers un visage beau qu'un visage laid alors qu'ils viennent juste de naître.
Oh, les vilains, ils sont vilains.
Ben voilà.
Ils sont discriminants dès la naissance.
Et puis, attendez, il y a les animaux, on s'est aperçu aussi. Alors, ça fait longtemps qu'on savait qu'un certain nombre d'animaux ont une conduite, un comportement, disons, artistique, en particulier lié à la reproduction. Mais là, on sait parfois... Un des plus connus, c'est le jardinier satiné, qui est un petit oiseau extraordinaire, puisque, par exemple, il va, autour de son nid, collectionner des tas de petits morceaux de couleur bleue, par exemple. Et c'est madame qui... Parce que chez les jardiniers satinés, l'art est genré. Hein. Je suis désolée, les animaux ne sont pas politiquement corrects.
Décidément, les bébés, voilà, les animaux.
Voilà. Et donc, madame regarde avec beaucoup d'intérêt, et monsieur est très motivé, parce que s'il rate son œuvre, il ne se reproduit pas, vous comprenez ? Donc, bon... Mais on s'aperçoit aussi qu'il y a un certain nombre d'animaux de ce type qui continuent de faire leurs petits travaux artistiques en dehors des périodes de reproduction. Et un certain nombre d'éthologues en sont arrivés à se dire, mais finalement, il y a une sorte de proto-esthétique animale. Parce que chez l'animal, il y a un goût de chanter, par exemple, le chant de la fauvette automnale, elle a l'air de chanter pour le plaisir de chanter. Et de la manifestation de soi, ça c'est quelque chose qui est très important. Et chez les humains, ça je vous apprends rien, mais chez les animaux aussi. Alors, proto-esthétique, parce qu'il ne faut pas aller non plus trop loin. Et entre la proto-esthétique animale et l'esthétique humaine, il y a certainement une barrière qui sera difficilement franchie, parce que c'est vrai que chez les hommes, il y a des idées beaucoup plus complexes
qui sont
en jeu dans l'esthétique. Mais il y a aussi un rapport au temps qui est différent chez l'homme et chez l'animal. L'animal a tendance à vivre dans l'instant. Et ça, effectivement, pour la pratique artistique, c'est sans doute un handicap.
Oui, mais enfin, l'animal...
Parce que Mnémosyne était chez les Grecs, Mnémosyne, la mémoire, était la mère des arts. Donc ça veut dire...
L'animal a une grande supériorité sur nous, il n'est pas sorti du paradis, donc il est programmé à des choses que nous devons redécouvrir grâce à l'art pendant des siècles et des siècles.
Attendez, il n'est pas sorti du paradis, il y avait un certain nombre d'animaux au paradis, puisque Adam les a nommés, donc...
Justement, non, mais je veux dire qu'ils sont toujours, même en étant avec nous, ils ont toujours cette programmation initiale que nous n'avons
plus, puisque nous voulions
la connaissance.
Sauf si le péché originel a abîmé toute la création, et y compris les créatures.
Ah ben non, puisque leur instinct les mène, on voit bien avec n'importe quoi, un petit chat, un petit chien, on voit bien que voilà, ils savent des choses que nous ne savons pas, que nous devons apprendre à la sueur de notre front. Mais en tout cas, je ne savais pas qu'il avait été écrit un livre qui s'appelle L'expérience esthétique chez l'animal. Ça,
oui,
c'est quand même extraordinaire.
Il y a beaucoup de livres sur des singes peintres en particulier. Il y en avait un qui était très célèbre dans les années 50 qui s'appelait Congo. Et qui faisait une sorte de peinture abstraite. Alors évidemment, les gens qui n'aiment pas l'abstrait s'en servaient pour dénigrer l'abstraction, ce que je ne ferais pas. D'autant plus que moi, je vois plutôt Congo comme un ancêtre de l'art très, très contemporain, cet art que j'appelle lassé, pour ne pas le confondre avec l'art de tous nos contemporains, puisque en fait, on s'était aperçu que Congo, ça, vraiment, ce qui le motivait, c'était de perturber les données que lui proposait l'observateur. Donc ça perturber, c'est créer, ça c'est vraiment un axiome de l'art très très contemporain.
Alors, dans votre livre, donc, je rappelle pour les auditeurs, Anatomie de la beauté de Christine Surgens, paru aux élections Bolein.
Bolein.
Pourquoi Bolein. Pas Bolein ben, c'est comme Bolein. Epstein ou Epstein. Hein,
non, non, Bolein comme presque comme une baleine, mais c'est un O au lieu d'un A.
D'accord, alors Bolein
plus simplement. Aïe.
Donc, à la page 78 de cet ouvrage, vous avez écrit quelque chose qui m'a profondément étonnée, alors que c'est l'évidence même, mais c'est l'art justement de l'écrivain de faire ressurgir des choses, exactement comme l'artiste d'ailleurs, des choses que tout le monde voit, mais qu'on n'a pas vraiment réalisées, puisque vous écrivez, l'humanité va donc sélectionner et hiérarchiser un certain nombre de données du réel, adapté à la diversité des aires géographiques. Les dizaines de vocables esquimaux qualifiant la neige ou incompréhensibles sont incompréhensibles à Ménilmontant, car sans utilité ni pertinence, bien que la neige tombe sans faire exception des peuples. Et vous ajoutez un petit peu plus, c'est un petit peu plus haut, il n'y a d'ordre que selon une certaine limite, notre gamme de seulement 7 notes a procuré plusieurs siècles d'inventions musicales. Alors ça m'a beaucoup frappé, parce qu'effectivement, on n'y pense pas, on ne pense pas que toute cette musique extraordinaire sous toutes ses formes, que ce soit sonate, que ce soit concerto, que ce soit juste la lettre à Élise, rien, tout ça est sur 7 notes. Ça,
oui,
c'est quand même
une combinatoire de très peu de données de base. C'est d'ailleurs la même chose donc, lorsque je vais le second livre, La géographie de la beauté. Il y a 10 terroirs avec 10 terroirs artistiques. Hein, alors, il y a l'harmonieux, le joli, le sublime, le kitsch, etc. On peut décrire toute l'esthétique. Et évidemment, tout cela va être mélangé. Hein, chaque artiste est une sorte de jardinier qui va mélanger les terreaux, etc., pour faire pousser ses plantes personnelles. Mais 10 terroirs, ça suffit pour décrire effectivement l'esthétique.
Oui, non, mais c'est fabuleux. On peut dire autant pour les couleurs, il n'y a pas tellement de couleurs de base.
Non, non.
Et à partir de ces couleurs-là, on a pu constituer.
Ou le goût. Le goût, c'est pareil. Amer, sucré, salé, c'est quand même très restreint.
Alors vous écrivez aussi, les règles ne sont pas que le produit de la civilisation, c'est-à-dire par exemple on prend les notes de base ou on prend des couleurs de base, on n'aboutit pas forcément à Rubens d'un côté et à Mozart de l'autre. Vous écrivez ces sociétés primitives, alors je ne sais pas si c'est vous la citation ou pas, les sociétés primitives dont j'ai partagé la vie sont des sociétés de règles. Alors, c'est quelqu'un... Ah, c'est Philippe Mallory, je crois.
Oui.
Voilà, Philippe Mallory, que j'ai bien connu à l'université. Il passait pour quelqu'un d'extrêmement spécial, mais de passionnant. Donc, ces sociétés primitives, écrit-il, dont j'ai partagé la vie, sont des sociétés de règles, des sociétés où le groupe vous oblige à vous dépasser. La beauté est une beauté de retenue, un homme, ça s'empêche. Et sont par ailleurs reliées au divin, au rite, à l'art sacré, au culte. Donc, ça, c'est effectivement intéressant parce que certes, on a eu un moment de redécouverte des arts, notamment africains, via Picasso, etc. Mais c'est le plus important, je trouve, c'est qu'on voit dans cette phrase, et vous le développez très bien, qu'au fond, il y a un rôle social très important dans cette production de la beauté, y compris les contraintes.
Oui, oui, oui. Oui, et dans le goût aussi, dans l'art d'apprécier ensemble. Vous savez, aujourd'hui, on veut plus discuter des goûts et des couleurs. Hein. C'est l'adage qu'on vous envoie à la figure dès que vous essayez d'argumenter quelque chose.
Ça, c'est votre opinion.
Voilà, c'est votre opinion. Donc, effectivement, on voit très bien que c'est une société complètement nombriliste, alors qu'en fait, des goûts et des couleurs, on en a discuté pendant des siècles, dans les ateliers, dans les galeries, dans les salons, etc. Et le problème, c'est qu'il faudrait être capable de dissocier le goût en matière d'art, le jugement esthétique, et ce que moi j'appelle les préférences personnelles. C'est-à-dire que si vous aimez les pommes et moi les poires, on ne va pas passer la journée à discuter de la supériorité des Williams sur les Golden. Effectivement, on ne discute pas des goûts, des couleurs dans ce sens-là. Mais quand il s'agit d'art, de beauté, aussi, on peut en discuter. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette notion de beauté, chez les Grecs, elle est objective. Pour les Grecs, la beauté, ça se voyait, c'était la beauté du cosmos. C'est pour ça que d'ailleurs, nos produits cosmétiques en gardent quelque chose.
Oui,
c'est-à-dire que le cosmos était beau. Et effectivement, à ce moment-là, ce qu'un sculpteur allait faire, etc., c'était retranscrire quelque part ou se mettre à l'école de cette harmonie générale. Et donc, si la beauté était objective, on pouvait faire des canons, on pouvait faire des règles, donc, d'où le canon de Polyclète, etc. Bon. Et puis, petit à petit, on va s'apercevoir qu'il y a, oui, il y a certainement des choses objectives, mais il y a aussi de la subjectivité en art. Et ça, ça va être la grande découverte de la modernité, en particulier un grand nom, c'est Baumgarten, qui en 1750 publie l'esthétique, c'est-à-dire c'est la première fois en deux tomes, c'est la première fois que le mot esthétique est employé dans ce sens qui va rester, c'est encore le nôtre. Hein, bon. Donc lui, il en fait une science de la connaissance sensible, et là, il prend en compte effectivement la subjectivité. Mais le drame auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que la modernité passant, de plus en plus, on va hypertrophier cette subjectivité. Et on va arriver à Duchamp qui vous dit « ce sont les regardeurs qui font les tableaux, point ». Alors je veux bien que les regardeurs fassent un petit peu les tableaux, mais lui, il absolutise. Je ne sais pas si, Catherine, si vous y représentez ce que ça veut dire. Vous prenez une croûte, vous la regardez, oui, mais alors mais il faut très 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 bien la regarder, et vous allez en faire un Titien, un Manet, enfin ce que vous voulez.
C'est monstrueux et c'est idiot.
Oui, mais c'est enseigné dans les écoles d'art comme étant une banalité, une évidence, etc. Bon. Donc là, il est évident que le curseur est allé beaucoup trop loin. Et il y a un moment, justement, au XVIIe siècle, quand cette subjectivité, on commence à braquer les projecteurs dessus. Évidemment, il y a quelqu'un qui va se mettre à rire de la beauté. C'est Voltaire qui n'allait pas rater ça. Mmh. Vous savez, il lui dit « qu'est-ce que la beauté ?» Et Voltaire répond « la beauté pour un crapaud, c'est sa crapaude avec les petits yeux ronds, avec ses gros yeux ronds. »
Certes, bon. Certes.
Certes. Mais Voltaire, qui est capable de se moquer de la beauté, le même qui écrit l'article « goût » dans l'encyclopédie, va faire bien le distinguo que nous avons fait, c'est-à-dire distinguer le jugement en matière d'art et le jugement en matière de préférence personnelle. Il dit que lorsqu'il s'agit d'étoffes, d'équipages, de tissus, tout ça, c'est de l'ordre de la fantaisie. Hein, tout ce qui n'est pas au rang des beaux-arts, dit-il, c'est de l'ordre de la fantaisie. Donc lui, il faisait bien la distinction entre les deux. Et à partir de là, oui, on peut discuter des goûts et des couleurs. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est très très intéressant, c'est que toutes les artistes, les courants artistiques donnent lieu souvent à des controverses. Bon. Il y a également aussi des controverses en matière scientifique. Il y a également des controverses en matière scientifique. j'ai perdu le fil de... Oui, mais au bout d'un certain temps, il y a un consensus qui se crée autour des grands peintres, des grands musiciens, des grands écrivains, etc. Et encore aujourd'hui, on lit Homère, encore aujourd'hui, on
oui,
va
ça, c'est
écouter
un exemple tout à fait
Josquin
fascinant.
Després ou Bach, etc. Bon. Alors que les sciences, les scientifiques qui étaient contemporains de ces grands artistes, aujourd'hui, ça ne concerne plus qu'une poignée de spécialistes. Donc il y a bien quelque chose qui est spécifique dans l'art qu'on ne retrouve pas par ailleurs. Or, aujourd'hui, un des reproches qu'on a fait à la beauté, c'est « ah oui, mais la beauté, vous savez, ça n'existe pas ». D'abord parce que ça serait complètement subjectif, c'est ce qu'on vient de dire. Hein, et puis des goûts, des couleurs, on n'y discute pas. Et surtout, on va dire, parce qu'on ne pourrait pas la définir. C'est-à-dire qu'il faudrait faire une définition de la beauté comme on a des définitions mathématiques, par exemple, comme si c'était une science. Bon.
Oui, alors, ça l'est d'une certaine manière. Quand on dit qu'il faut la tête 7 fois dans le corps pour avoir un corps harmonieux, c'est quand même une règle.
C'est une règle, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. L'Isip, on avait une autre. Même chez les Grecs, le canon varie.
C'est vrai, 9 bon. Fois, oui, c'est vrai.
Voilà.
Mais 7 fois, c'est mieux.
Ça, c'est votre avis.
Oui. Mon cas.
Et puis, vous savez, comme disait l'autre, le problème de ces règles comme ça, très, un petit peu strictes, c'est que le canon c'est très bien, mais ça dépend quand même avant tout du talent de l'artilleur.
Bien sûr, voilà, bon. Bien sûr.
Ça, c'est la mise en œuvre qui compte, parce que vous pouvez avoir des œuvres tout à fait médiocres qui respectent un certain nombre de canons.
Enfin, tout de même, hein, vous rappelez que dans Sagesse 11-20, il est écrit « Dieu a tout créé avec nombre, poids et mesure ».
Voilà. Voilà.
Donc pourquoi pas ?
Oui,
pourquoi pas ?
Ah, même absolument. Pourquoi pas ? Absolument. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, à partir du moment où on peut renouveler, si vous voulez, le débat philosophique qui est un petit peu enlisé, justement, avec ces nouvelles expériences qui viennent de la neurologie ou qui viennent du comportement animal. On peut essayer, puisqu'à nouveau on se dit, mais il y a quand même un petit peu d'objectivité dans le beau. C'est la raison pour laquelle je suis partie à la recherche, non pas de règles strictes, mais de constantes de beauté. Et vous savez qu'en réalité, j'en ai trouvé 6. Je pense qu'effectivement, il y a 6 constantes de beauté. Mon but avec ce livre, c'était de redonner de la consistance à cette notion de beauté sans la fossiliser, sans la rigidifier, ce que un certain nombre de règles... Alors, il y a tout un chapitre sur les règles, où on s'aperçoit d'ailleurs que très souvent, les règles, y compris les règles académiques d'ailleurs, ne sont pas ce qu'on imagine aujourd'hui. C'était quelque chose de beaucoup plus souple. Il y a des chercheurs comme Jacqueline Lichtenstein qui ont travaillé les textes de l'Académie au XVIIe, et on s'aperçoit que les débats à l'Académie, c'est absolument passionnant. Il y a beaucoup moins de règles qu'on imagine. Elles sont beaucoup plus souples qu'on le croit. Donc là, je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire, c'était de redonner de la consistance sans scléroser, si vous voulez, la notion. Parce qu'au fond, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Anatomie de la beauté ». Mais souvent, quand on dit « anatomie », ça veut dire que ce dont on fait l'anatomie est mort. Mais le but du jeu, c'est de montrer qu'en fond, c'est une physiologie. Et ce que j'ai essayé de décrire, c'est les métabolismes de quelque chose qui est de l'ordre du vivant. La beauté est de l'ordre du vivant.
Alors, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'enseignement dramatique, paraît-il, effectivement, notamment aux Beaux-Arts, vous citez à la page 91, et ça me paraît excellent parce que ça peut tout à fait être transposé en politique, de même que l'Église dit « le principal, c'est de ne pas nuire, de ne chérer ». Eh bien, Philippe Lejeune, qu'on connaît bien ici sur Radio Courtoisie, a écrit de Maurice Denis « il ne dit pas ce qu'il faut faire, mais ce qui, d'expérience, rate, dont il faut se méfier, quels sont les pièges ». Et donc, il faut, dans l'enseignement, faire gagner du temps pour inventer, pour éviter, justement, ce qui, en tout cas, nuit à la beauté.
Oui,
je pense qu'en politique, c'est tout à fait transposable. Vous voyez, ce serait un enseignement où il faudrait dire ce qui a raté, ce qui ne marche pas, et donc ce qu'il faut éviter de faire pour ne pas nuire à la société. Oui, j'ai trouvé que c'était...
Mais ça, on le voit très bien chez... Lejeune lui-même, hein, dans les écrits qu'il a laissés, c'est très très net. Et d'ailleurs, Lejeune faisait un parallèle avec le décalogue, où il disait qu'à part le premier commandement, les autres, c'est ne pas faire. Une fois qu'on ne fait, tu ne tueras pas, etc., et le reste, on est libre.
Et alors, ce qui m'a étonné aussi, c'est que, comme vous dites, dans l'enseignement, on enseigne tout sauf parfois ce rapport à la beauté, c'est que Burke, que je connais et dont j'aime beaucoup, beaucoup les écrits strictement politiques, parlait peinture.
Et il parlait du sublime, Burke.
Incroyable.
Ah oui. Oui, c'est celui qui a donné ses lettres de noblesse au sublime.
Alors, je vais aller chercher maintenant dans l'œuvre de Burke ce à quoi vous faites allusion.
Dans Géographie de la beauté, il y a tout un énorme chapitre sur le sublime, parce que le sublime est effectivement un des territoires du beau. Mais il ne faut pas confondre beauté et sublime. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du sublime qui est beau. Et puis, des fois, il y a ce que j'appellerais un sublime outré. C'est qu'à force... d'exagération, d'outrance, etc., on sort de la beauté. Et le sublime peut très bien nuire. Il peut devenir écrasant, il peut devenir subjugant.
Oui, dans l'académique notamment, oui. Ou dans l'art socialiste tel qu'on l'a connu.
Donc,
qui est irréprochable sur le plan artistique.
Ça dépend.
Qui écrase un peu de ce message qui veut absolument être porté.
Beaucoup
en fait.
De griefs qu'on a reportés sur le dos de la beauté, en particulier d'avoir servi des régimes fascistes, par exemple. En réalité, ce n'est pas la beauté dans les défilés de Nuremberg qui est à la manœuvre, c'est le sublime. Quand vous regardez les projets de la coupole du Reichstag, tels que Hitler le prévoyait dans sa démesure, c'est un truc absolument qui faisait plusieurs fois le Vatican,
c'est absolument affolant.
Vous êtes complètement écrasé par cette architecture. Et à côté, vous mettez les coupoles des églises baroques, au contraire, il y a quelque chose d'ascensionnel, de léger, qui vous élève. Et c'est là qu'on voit un sublime outré d'un côté et un sublime qui peut être beau de l'autre.
Et par exemple, dès le début, que ce soit en Mésopotamie, enfin, on a eu des arts qui écrasaient les autres. Si vous prenez l'art grec et l'art de ces trucs déjà immenses qui sont en Irak aujourd'hui, mais qui étaient, il y avait déjà une disproportion qu'on retrouve en politique. Hein, quand Alexandre arrive là-bas et qu'il dit, non, moi je ne me prosterne pas devant le roi, je ne regarde pas par terre, c'est-à-dire qu'il refusait en fait cette
dimension. C'est vrai que les Grecs sont volontiers dans l'harmonieux. C'est leur grand registre, c'est l'harmonieux.
Je pense que c'est la raison de ce succès. Et quand vous regardez le Parthénon, moi ça m'a beaucoup frappé. Vous apprenez que quand même, certaines règles ont été respectées et que certaines ont été légèrement infléchies pour que justement le reste soit harmonieux. C'est tout à fait... Tout à fait fascinant.
Et pour faire un lien avec la politique, vous savez, cette phrase de Desmoulins, « bâtir, c'est beau, mais détruire, c'est sublime ».
Là, on voit la différence. Je la lui laisse.
Oui, mais là, on voit la différence entre le beau et le sublime.
Oui, enfin, bon.
Et oui.
Je pense que la beauté peut être sublime, mais peut-être...
Bien sûr, absolument. Quand vous prenez, par exemple, les paysages de David Gaspard Friedrich, parce que le 19e, l'époque romantique, ça va être le moment où le sublime est mis en valeur, en avant, alors que le 18e va, surtout la période de Louis XV, Rococo, c'est le joli, là, plutôt, on va mettre le joli, au premier plan. Bon. David Gaspard Friedrich, ça donne dans le sublime, mais c'est beau. C'est beau, parce que, par exemple, Voyageur au-dessus de la mer de nuages, vous sentez à la fois la petitesse... On se sent tout petit devant l'immensité, mais en même temps, l'homme domine quand même le paysage, vous voyez. C'est une silhouette qui est bien campée, il s'appuie sur sa canne, on sent que nous, on est derrière, on peut s'appuyer sur cette silhouette. Vous voyez, il y a toujours une notion quand même d'équilibre derrière, donc on est dans le sublime, mais aussi dans la beauté. Et puis, vous avez d'autres... Alors là, ça peut être les pompiers, par exemple, qui vous font des grands péplums avant la lettre, etc. Ou là, ça... Ça peut devenir risible, d'ailleurs.
Alors, je continue parce que c'est mon dada, vous m'en excuserez, mais je continue toujours dans votre livre. Hein, c'est votre livre qui m'a inspiré. À la page 102, on trouve une prolongation de la pensée d'Aristote. Moi, je cite dans mon livre de sociologie politique cette phrase d'Aristote, il n'y a pas de musique en unisson. Ça veut dire qu'effectivement, il ne faut pas un seul son. Mais moi, j'ai trouvé dans votre livre une prolongation. Rien de plus disparate que le brouhaha, aussi ennuyeux et fatigant que l'unisson. Et c'est tout à fait transposable. Hein, de l'unité du tout naît la subordination et qui est insupportable à la limite d'un seul son, ce n'est pas la musique. Et d'un autre côté, l'anarchie totale ne
ça
peut pas non
plus
générer le
voilà, c'est la première la constante de beauté, ordonner la diversité. C'est-à-dire que le beau se tient entre deux abîmes, le n'importe quoi du chaos et l'uniformité du même. Même les oiseaux, d'ailleurs, effectivement, l'ont compris. Ils évitent la régularité mécanique et puis aussi la diversité aléatoire, d'où la mélodie.
Oui, ça, j'ai bien aimé parce que du coup, j'ai écouté plus soigneusement les oiseaux le matin, effectivement.
Ah, oui.
C'est assez extraordinaire. Alors, d'où souvent l'image de l'orchestre pour l'État. Très souvent, il y a cette transposition de la notion d'orchestre à la notion d'État. Il faut un chef d'orchestre pour ordonner les différentes parties, pour qu'elles soient en harmonie, etc., etc. Bon, c'est un idéal, mais enfin, on peut toujours rêver. Alors, c'est à la page 102, justement, que vous écrivez ce passage magnifique sur les oiseaux qui évitent les extrêmes de la régularité mécanique, comme ceux de la simple diversité aléatoire. C'est magnifique, cette phrase est très claire, et ça m'a beaucoup... moi, c'est mon concert préféré, quotidien, les oiseaux, j'avoue que c'est... Alors, évidemment, il y a des mois de l'année où ils se taisent, là, ça recommence.
Oui, mais là, c'est reparti, là, effectivement. Oui.
Alors, vous parlez aussi de François Cheng, qui a fait 5 méditations sur la beauté, qui a publié chez Albin Michel en 2006 5 méditations sur la beauté, que je ne connais pas, donc je vais aller regarder aussi. Paul Claudel, enfin, votre livre est un voyage, justement, quand je disais qu'il fallait déjà quand même... une petite base culturelle pour le lire, mais cette base culturelle s'agrandit au fur et à mesure, évidemment, de ceux que vous citez.
Non, mais mon but était, si vous voulez, pendant très longtemps, en fait, quand Moi, j'appartiens à la génération qui a vu la beauté se faire attaquer. Et j'ai vu aussi la difficulté de répondre, parce qu'à l'époque, pour nous, quand j'avais 20 ans, la beauté, c'était une évidence. Et c'est très difficile de défendre une évidence. Parce que justement, on n'a pas réfléchi à l'argumentation, etc. Donc, je crois que c'est... Et ce que j'ai voulu faire, c'est montrer que ce que je dis n'est pas sorti de ma géniale cervelle, mais c'est dans notre culture, dans la culture de notre civilisation, depuis très 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 longtemps. Je n'ai fait que rassembler, synthétiser des choses qui étaient diverses. Et que bah, c'est vrai que quand j'avais 20 ans, moi je me rappelle, je faisais... Parce que j'ai une formation qui est à la fois d'histoire... d'histoire de l'art, et puis également j'ai fait comme Jacqueline Lichtenstein, j'ai pratiqué la peinture, j'ai été faire du nu à la Grande Chaumière par exemple, et je me rappelle, il y avait des gens qui venaient de tous les coins du monde, qui ne parlaient pas très bien français, mais qui par le dessin, par les gestes, par une espèce de sabir, on se rendait bien compte qu'on partageait la même vision, si vous voulez. C'était assez étonnant, là il y avait une universalisation, oui. Qui allait de soi. Et ce qui fait que quand on a vu après toute cette mouvance du côté du champ monter et prendre le pouvoir, on a été extrêmement surpris.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une sélection de la beauté qui est familiale? Parce que moi, je me souviens d'avoir, à 18 ans, d'être promenée avec un ami dans des quartiers que moi, je trouvais affreux, parce que je trouvais que les constructions étaient affreuses, je trouvais que, etc. Et lui s'est tourné vers moi et m'a dit « Mais pourquoi c'est affreux ?» Et je me suis dit, ah, on a eu peut-être la même éducation.
Oui.
Il y a quand même la famille joue quand même un rôle, je pense, important.
Oui,
la famille. Les parents désignent ce qui est beau, ce qui n'est pas beau, ce qui est...
Oui, peut-être. Mais alors, par contre, moi, je m'inscris totalement. Moi, je suis d'origine ouvrière, hein, je ne m'en cache pas.
Et vous pouvez avoir le sens de la beauté quand même.
Exactement, exactement.
Je ne dis pas que c'est social. Hein,
c'est pour ça qu'il faut préciser. Je pense que le goût du travail bien fait, hein, chez les ouvriers, ça compte énormément. Moi, j'ai toujours vu, justement, la famille courir les vide-greniers, les brocantes, voilà. Réparer les objets.
Je me suis mal fait comprendre. L'ami qui était avec moi n'était pas d'une appartenance sociale différente. Oui. C'est juste que c'était des matheux qui parlaient de maths à longueur de temps et que tout ce qui était littéraire et tout ce qui était artistique était mis de côté chez lui, quoi. C'était ça. Je voulais pas du tout faire une. C'est heureusement que c'est réparti dans toute la population, que c'est pas du tout. Ce qui est formidable, c'est que vous faites référence dans votre livre donc à des auteurs qu'on n'attendait pas sur ce plan aussi. Paul Claudel est très connu, mais on n'avait pas imaginé qu'il puisse écrire ses fleurs et ses fruits sur une table, cette carafe et ce verre à côté, moitié plein, ce jambon et ce pain sur une serviette, etc. Il décrit un tableau, attaque directement à travers la rétine, l'intelligence et la mémoire. Bon, j'avoue que je n'avais pas vu ça. Et en revanche, Delacroix, c'est vrai qu'il a instruit autant que charmé. Est-ce que c'est lui qui l'écrit ? Les plus grands artistes sont ceux qui produisent dans leurs œuvres la plus grande unité possible, de telle sorte que les détails, non seulement n'y nuisent pas, mais y soient une nécessité absolue. Je trouve cette phrase formidable parce que est-ce que c'est pas ça souvent qui fait la différence entre la toile de génie et l'autre, c'est que il y a cette intégration incroyable de détails en fait.
Il y a une autre phrase de Delacroix que j'aime beaucoup, c'est dit « Il n'y a pas de degré dans le beau, la manière seule d'exciter le sentiment du beau diffère. » Et ça, je crois que c'est capital pour sortir le beau d'une des impasses où il est aujourd'hui, parce que nous avons une partie de l'intelligentsia qui a suivi Duchamp et compagnie, qui lui était pour une beauté d'indifférence, etc. Donc il ne s'intéresse plus au beau. Et puis vous avez l'homme de la rue qui lui a une vision assez manichéenne de la beauté, c'est-à-dire une opposition beau-laid qui redouble l'opposition bien-mal. Or, on voit très bien que cette opposition beau-laid, elle est régulièrement démentie par l'expérience dans les musées, par exemple l'arrêt de Chardin. Il y a des détails absolument dégoûtants dans l'arrêt de Chardin. Et pourtant, le tableau n'est pas repoussant.
Bon. Je ne connais pas celui-là.
Il faut aller au Louvre, il faut courir. Ou alors penser au Judith.
L'arrêt, c'est-à-dire ?
L'arrêt, une raie.
Un poisson, tout simplement.
Bon. Ou les tableaux de Caravage où Judith décapite Holoferne. C'est vrai qu'il y a des détails, c'est bon, mais le tableau n'est pas repoussant comme. Bon. Et ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, le beau, il va être coincé entre le joli et le sublime. C'est-à-dire que les gens ont dans la tête une échelle. C'est-à-dire le joli est conçu comme une espèce de beau amoindri, charmant, mais en fait très décoratif et assez superficiel. Mais il a quand même tendance à contaminer le beau qui est censé être au-dessus. Et tandis que le beau va être écrasé par le sublime, qui lui sera un dépassement de la beauté et qui serait plus beau que beau. Bon. Donc, vous avez une échelle, si vous voulez, qui écrase, où le beau se trouve écrasé entre le joli et le sublime. Et justement, je trouve que la phrase de Delacroix permet de sortir de cette impasse, c'est-à-dire qu'il faut, il n'y a pas de degré dans le beau, donc il faut replier l'échelle, si vous voulez, et il faut déployer une géographie de la beauté, il faut montrer l'étendue du beau, il faut ouvrir ses horizons, et ses horizons, bah, c'est l'harmonieux, le sublime, le joli, le kitsch, l'étrange, l'intéressant, etc.
Et effectivement, ça m'a frappé aussi. Vous dites, le beau fait régulièrement la démonstration de sa puissance unifiante. Je crois que ça, c'est vous qui l'écrivez.
Oui, tout à fait.
Une statue antique, même mutilée, bien continue sûr. D'être belle,
oui.
Car n'importe laquelle de ses parties constituantes possède la signature du tout. Et effectivement, on pense tout de suite à la statue du Louvre,
ouais,
qui est amputée,
ouais,
et qui est véritable. Moi, j'ai souvenir d'avoir vu ces statues à la première visite
absolument.
Au Louvre et d'être restée
absolument.
Comme ça.
Et d'ailleurs, comme on disait que dans le jugement du beau se jouaient des faits de société, c'est vrai que les Grecs se sont demandé qu'est-ce qui est supérieur, la partie, le tout. Et ben oui, pour eux, c'était le tout.
Bien sûr,
que la partie s'intègre dans le tout.
Alors, nous avons un auditeur ou une auditrice, je ne sais pas, qui nous dit « La beauté est de Dieu. Les archétypes des anges sont blancs et lumineux. Les démons sont noirs et inspirent le dégoût. Savez-vous qu'il y a dans l'église de Montmartre, derrière le Sacré-Cœur, une statue de la Vierge consacrée, instituée Notre-Dame de beauté ?»
Non, ça je ne savais pas, Notre-Dame de beauté. J'irai voir.
Alors, bien sûr que l'iconographie religieuse, bien sûr, ne pouvait pas. Bien qu'il soit dit que Satan est le plus beau des anges, quand même.
Absolument, mais il y a toute une ambiguïté, justement.
Oui.
Et oui, il n'est pas toujours tout noir, sinon ça serait trop simple.
Mais oui, on ne serait pas
séduit. On ne serait pas séduit, absolument.
Mais l'iconographie, peut-être pour faire peur aux enfants, surtout, enfin, sur les chapiteaux, sur les etc., effectivement, elle représente comme quelqu'un de laid et donc de malfaisant. Ça va ensemble, a priori. Quoi.
Oh, mais ça sera le quatrième livre, hein, Beauté singulière. Il y a tout un chapitre sur la beauté du diable. En l'écrivant, j'ai été absolument épatée de l'ingéniosité des artistes à décliner les différentes facettes du démon, justement. Et ça va beaucoup plus loin que ça. Enfin, vous avez par exemple Martine, qui va vous faire une œuvre qui maintenant est d'ailleurs atterrie dans les collections du Louvre, qui s'appelle Pandémonium, et qui représente le démon qui harangue ses troupes. Et donc, c'est pas tellement la figure du démon qui est intéressante, c'est le paysage du Pandémonium, parce que le Pandémonium, c'est la cité des enfers. Hein, bon. Et donc, on voit au pied du démon une espèce de flot de lave incandescente, chaotique. On voit qu'effectivement, il y a des démons qui commencent à sourdre de tout ça. Et au-dessus, on a une architecture impeccable, rectiligne, bien ordonnée, etc. Et tout d'un coup, on est saisi d'un trouble quand on voit cette œuvre. C'est-à-dire
ah oui.
que, bah oui, Pandémonium, ça veut dire tous les démons. Et qu'est-ce que dit ce paysage ? Il dit, au fond, tous les démons, c'est quoi ? C'est à la fois le chaos et l'ordre. L'ordre peut aussi être un démon, quand il est totalitaire, par exemple.
Tout à fait, oui.
Donc ça, c'est assez étonnant de voir, effectivement, l'immense palette qui a été déployée au fil des âges sur ce thème.
C'est un thème fascinant.
Oui.
On a un petit Bobino à écouter.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Et après, on passe à art contemporain, manipulation. Et à ce moment-là, on invitera Aude. Donc, le diable, à la fois le le plus beau des anges, celui qui porte la lumière en plus, c'est même si alors
Lucifer.
Qu'on présente l'enfer comme étant très très sombre, etc. Mais c'est à titre didactique, hein. Voilà, ah, si
il
effectivement.
Il peut être sombre, il peut être glacé.
Non,
il y a des tas de. C'est très subtil. C'est quand on rentre dans le détail, c'est très.
Mais c'est un désir que l'enfant intègre ce genre de choses. Après, l'adulte sait que eh bien, le démon n'est pas toujours sous sa forme aussi répugnante. Alors, il y a quelque chose, c'est Umberto Eco qui le dit, donc c'est un personnage moderne, évidemment.
Je voulais juste rebondir sur la personne qui avait dit la beauté de Dieu, etc. Oui, il y a des beautés qui sont référées à la transcendance, ce qu'on voit très bien, avec d'ailleurs des voix plastiques différentes, c'est-à-dire la voix que va choisir l'Église latine, qui est la voix de l'image, va être très différente de la voix que va choisir l'Église orthodoxe d'Orient, qui va choisir l'icône. Hein, ce sont plastiquement des voix différentes. Et puis, vous avez aussi des beautés qui sont plus immanentes. Il y en a une qui est très connue, c'est les beautés impressionnistes, avec l'éloge de la nature, si vous voulez. Croyants, pas croyants, occidentaux ou orientaux peuvent entrer en communion, si vous voulez, devant ce type de beauté. Bon, dans un cadre chrétien, comme Dieu est à la fois transcendant et immanent, on peut croiser les deux, ça pose aucun problème.
C'est ça. Et ce que je voulais relever là, c'est que il y a une manière. On peut penser que la beauté apaise les tensions. Mmh. Vous l'écrivez vous-même, hein, à un moment donné, effectivement, ça n'enlève pas forcément la contradiction.
Absolument pas, absolument pas.
Donc ça, c'est très intéressant.
Absolument pas.
Parce
d'ailleurs,
que...
la deuxième constante de beauté, c'est d'harmoniser les tensions. Parce qu'il faut que, justement, la beauté, il doit y avoir un dynamisme, une mise en tension plus ou moins forte. Et là encore, il faut toujours revenir aux Grecs et rappeler que pour eux, l'harmonie, elle était fille d'Aphrodite, Vénus, mais aussi d'Arès, Mars, le dieu de la guerre. Donc le conflit est nécessaire pour appareiller et coordonner les antagonismes. Et là, on rejoint ce que disait Umberto Eco, hein, harmoniser les opposés, ça n'implique pas d'annuler l'un d'eux, mais de les laisser vivre tous les deux en tension continuelle.
Moi, ça m'a évoqué cette phrase, un tableau d'un autre italien, qui est la bataille de San Romano de Paolo Uccello, que j'ai découverte aussi. Toutes mes découvertes, c'était à 15 ans en allant en Italie. Hein, c'était vraiment... Enfin, et au Louvre aussi. Et c'est extraordinaire parce que cette bataille, c'est une bataille, il n'y a pas de doute. On voit bien les armes, etc. Mais c'est extraordinairement harmonieux.
Absolument.
Il y a une unité de ce tableau qui fait qu'on n'est pas angoissé comme on devrait l'être par le fait que des gens se rendent dedans, que le sang coule, que le, etc. Ça m'a beaucoup frappé cette phrase d'Umberto Eco. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Umberto Eco, vous achetez Le nom de la rose et personnellement je n'ai pas pu quitter le livre, ce qui fait que j'ai passé la nuit dessus. Donc c'est un personnage qui est de manière générale comme écrivain déjà tout à
Mais
fait...
Comme penseur, il a dit des choses très intéressantes.
Oui, ça je savais beaucoup moins. Alors, la beauté diffère aussi de la perfection. Ça, vous citez Cocteau sur la question. Mm-hmm. Certaines asymétries ou de légers déséquilibres peuvent offrir un spectacle inégal et charmant.
Ah oui, harmoniser les tensions. C'est ça.
Et du reste, aucun visage... Alors, pour parler de Dieu avec notre intervenante, du reste, aucun visage n'est parfaitement symétrique. Mm-hmm. Or, voilà, c'est la création. C'est quand même... l'individuation fait aussi que ça ne peut pas être une complète... uniformité, voilà.
La beauté, c'est faire tout son possible, alors que le sublime, lui, voudrait atteindre l'impossible. C'est là où on voit toujours le petit distinguo, de la manière que la beauté se propose, le sublime s'impose, etc. Le sublime outré, bien sûr, parce qu'encore une fois, il y a un sublime qui peut être beau.
Oui, qui exalte les gens et qui leur fait faire tout et n'importe quoi. Alors, ingre, par exemple, hein, on cite souvent cet élément d'imperfection qui est le nombre
de vertèbres
sur le dos de la baigneuse. Effectivement, je crois que ça n'a perturbé personne jusqu'au moment où quelqu'un l'a fait remarquer. Le fait d'apaiser les tensions, on retrouve ça dans l'éthique à Nicomaque. Il faudrait réécrire l'esthétique à Nicomaque. Donc l'irrégularité peut même être la surprise. La surprise, oui. On pense ça pour un visage, par exemple, il peut y avoir
la surprise,
quelque chose qui
troisième,
qui attire.
La oui. troisième constante de beauté. Et ça, c'est quelque chose qui est très, qui a été noté depuis très longtemps. C'est pour ça que j'ai cité Roger de Pile, qui est un peintre, graveur, théoricien, qui va mourir au début du XVIIIe siècle et qui dit qu'une peinture ne permet à personne de passer indifféremment sans être comme surpris, sans s'arrêter et sans jouir quelque temps de sa propre surprise. Et c'est déjà, il dit ça au XVIIe siècle. Alors Baudelaire va beaucoup développer. Hein. L'irrégularité, c'est-à-dire l'inattendu, la surprise, l'étonnement, sont une partie essentielle et la caractéristique de la beauté. Alors ce qui est très amusant aussi, c'est vous qui aimez la musique, c'est d'aller chercher Haydn et la symphonie numéro 94.
J'ai découvert ça dans votre livre.
Alors là, elle est sur Internet. Hein. Donc il y a un mouvement dans cette symphonie qui s'appelle la surprise. Et alors écoutez-le, hein, Haydn, la symphonie numéro 94, la surprise, vous allez sursauter. Hein,
c'est un coup de cymbale en fait.
Ah ouais, mais alors c'est un sacré coup de cymbale, on sursaute vraiment. Hein, on se demande même si on n'est pas déjà dans Parade 1917. Mais là, c'est.
Là, non, c'est 1792.
Alors, il y a tous les peintres ont mis des trésors d'imagination pour mettre en œuvre la surprise. Ça peut être une anomalie, un flou dans le tableau, ça peut être l'assouplissement d'une règle qu'on s'est donnée. Hein. Par exemple, Oudry, le canard blanc, qui est un des ancêtres du monochrome. C'est canard blanc sur fond blanc.
Hein. Oui, ça, je connais
pas. À mon avis, c'est un. Bon, bref, il y a Malevitch, c'est carré blanc sur fond blanc, mais j'aurais une petite préférence pour le canard blanc sur fond blanc. Et donc, c'est tout un camailleux de blanc cassé, de gris, avec des jeux de textures. On sent le lisse, le rêche, le dufteux. Et puis, tout d'un coup, vous avez la surprise du rouge assourdi du bec et des pattes, si vous voulez, qui va réveiller symphonie en blanc.
Oui, voilà. Tout à fait.
Cézanne aussi, dans La nature morte à la commode, tout d'un coup, vous apercevez, au premier coup d'œil, vous ne le voyez pas. Mais quand vous regardez bien, vous apercevez qu'il y a un coin de table à droite qui recule par rapport au coin de table à gauche. Et ça donne du mouvement, évidemment. Ça, bon. Et parce que l'équilibre pictural, ce n'est pas toujours celui de la stricte géométrie. Mais il faut que la surprise, elle apparaisse presque naturelle. Hein, et surtout pas, comme on dirait aujourd'hui, téléphonée. C'est-à-dire que si la surprise est une rupture, toutes les ruptures ne sont pas des surprises. Hein. Et là, évidemment, à chaque fois que je parle d'une constante de beauté, je montre à quel point souvent l'art très contemporain, que j'appelle l'AC, hein, celui au sens d'un label d'art officiel, financier, etc., souvent abuse, détourne, falsifie justement ces constantes de beauté. Par exemple, on pourrait dire quand Kuntz accroche son homard à Versailles, ça surprend. Bah oui, mais ça surprend uniquement parce qu'il est là à Versailles. S'il était en enseigne de restaurant au bord de la mer, ça surprendrait pas. Et puis surtout, il s'épuise dans la surprise qu'il propose.
Bien. Oui, ça, je me souviens très, très bien.
Et donc, l'art contemporain, l'art dit contemporain, là, c'est caricature.
Il faut choquer plus que surprendre.
Il transforme la surprise en choc, parce que c'est le choc qui est au centre de des stratégies. Et c'est un abus d'une propriété du beau qui, lui, ne visait pas à piéger, à sidérer. Si vous voulez, ce que recherche la beauté en déjouant la prévisibilité, c'est de développer chez nous une intelligence des subtilités du changement. Par exemple, le canard d'Oudry, eh bien, l'œil va de finesse en raffinement de texture grisâtre, blanchâtre. C'est tout à fait différent du homard de Kuntz. Et d'ailleurs, cet usage de la surprise, qui est vraiment une constante, à mon avis, a beaucoup contribué à l'évolution des styles en Occident. Parce que c'est vrai qu'en Occident, l'histoire de l'art, ça bouge énormément. Comparé à d'autres continents qui sont beaucoup plus stables, mais qui ont d'autres métaphysiques derrière, hein, qui les sous-tendent.
Et alors, à la page 121 de votre livre, donc « L'anatomie de la beauté », Christine Surgens, vous dites qu'au fond, la beauté, à un moment donné, commence à refléter les humeurs de l'auteur, c'est-à-dire peut-être la mode aussi. C'est peut-être ce qui a tué cette espèce de... On était arrivé à un plan où la beauté était certainement stabilisée dans ce sens, la période classique, puis elle s'est élargie, que ce soit
bah,
par les impressionnistes, etc.
Ça
mais
bouge,
est-ce qu'on
n'est
pas arrivé,
bouge.
Malheureusement, par exemple, Jeff Koons, bah, on connaît Jeff Koons, on se fiche de ce qu'il a fait. Comme c'est Jeff Koons, on va s'y intéresser parce que c'est un auteur qui a une idée.
Oui, mais alors là, dans l'art contemporain, à mon avis, bon, ça s'appelle toujours art. Je veux bien que ça s'appelle art contemporain parce que art, ça veut dire technique. Et dans l'art contemporain, il y a des techniques. Il y a des techniques de manipulation du spectateur. Il y a aussi des techniques de financiarisation. Donc, je veux bien qu'on conserve le terme art, mais franchement, ce n'est pas du tout dans la définition séculaire de l'art, telle que Delacroix, Manet, Monet, etc. Bonnard le pratiquait. C'est quand même quelque chose d'un ordre totalement différent.
Alors, justement, nous avons en ligne Aude de Kéros. Allô?
Oui, ben je vous écoute avec le plus grand intérêt, évidemment.
Mais oui, ma chère Aude, alors nous vous attendions physiquement, alors nous sommes fort déçus de ne pas vous avoir dans le studio.
Absolument, et j'ai vérifié ce matin pourtant.
Allô?
Oui, oui, voilà, je suis là. Oui, donc j'écoute tout ça avec beaucoup d'intérêt parce que Christine a fait un travail tout à fait... comment dire, essentiel à une époque où nous avons donc traversé toute la modernité et où il y a eu quand même un certain nombre d'écrivains et de penseurs qu'elle cite d'ailleurs et que vous avez cité tout à l'heure, qui ont dit des choses tout à fait nouvelles sur la beauté, sur l'art, parce qu'avant c'était si évident qu'on n'avait pas besoin de définir quoi que ce soit dans ce domaine.
C'est ça.
C'était une sorte d'évidence partagée. Et tout d'un coup, on a été obligé de se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que l'art et qu'est-ce que c'est que la beauté? Et donc, nous sommes un peu au bout, vous savez, de l'autre côté. On a parcouru toute cette époque et tout a été... il y a eu quand même aussi des grandes stratégies de confusion cognitive,
oui,
à l'œuvre pendant, et pas du tout de façon naturelle, mais pas du tout de façon innocente pendant pas mal d'années. Et donc, le livre de Christine, qui a demandé un travail colossal, vient à point parce qu'elle fait, je dirais, elle examine la cale du navire. On appelait ça, comment on appelle, ça y est, le nom m'échappe. C'est-à-dire, qu'est-ce que portent ces mots, qu'est-ce qu'ils veulent dire, quelle est toute la pensée derrière. Et grâce à ces 5 livres, eh bien, on fait le tour de la question à un moment où c'est absolument indispensable. Et le livre de Christine, c'est quelque chose à avoir dans sa bibliothèque, sur sa table de nuit. On n'est pas forcé de le lire d'un bout à l'autre. Il est là pour répondre à nos questions. Parce qu'elle ne donne pas. Elle ne donne pas une opinion ou quoi que ce soit. Elle décrit le champ de bataille. Elle décrit le champ sémantique. Elle décrit... et elle nous cite toutes les pensées qui ont répondu à ces questions.
Alors, ma chère.
Elle a fait un travail de bénédictin et je ne suis pas sûre qu'un bénédictin le ferait aujourd'hui. elle a la chance d'avoir été à l'œuvre aussi. Elle a commencé par être une artiste. Et puis, elle n'a pas simplement cette vision. Astronomique de l'intellectuel qui regarde ça de la planète Mars.
Absolument. Écoutez, elle n'en peut plus, là. Elle rougit, elle n'en peut plus. Ma chère Aude, alors, je vais interrompre cette hagiographie parce que je sens qu'elle va se trouver mal et que tout le monde a compris son apport formidable. Et on va parler un peu du vôtre parce que vous avez donc écrit, je l'ai sous les yeux, Art contemporain, manipulation et géopolitique. Et ce n'est pas votre seul ouvrage, mais il se trouve que c'est celui que j'ai sous les yeux. C'est le dernier, d'ailleurs, hein.
Non, l'avant-dernier. Le dernier, c'est l'art caché dévoilé, une concurrence à l'art contemporain.
D'accord.
C'est-à-dire que, bon, en fait, c'est... Mais bon, on ne va pas parler de ça.
Si.
Là, on passe d'une, comment dire, d'une conversation absolument...
Ils ne sont pas dociles, hein, mes invités. Si, moi, je voulais vous demander, ma chère Aude...
Nous allons tomber dans les problèmes de stratégie et de guerre culturelle. C'est plus du tout la même chose.
Bien sûr, mais moi, je voulais savoir, justement, puisque mes invités ont le droit quand même d'avoir toute une petite présentation. Et donc, d'autant plus quand on est patron d'émission sur Radio Courtoisie, où on parle surtout des autres et pas tellement de soi-même. Et donc, moi, ça m'intéresserait de savoir... tout à l'heure, Christine nous a dit un petit peu quel avait été son chemin pour mener cette bataille. Et vous, c'était avant, quand était votre premier livre. Qu'est-ce qui vous a poussé vers cette croisade? Parce que c'était véritablement une croisade, hein, contre l'art mercantile dit contemporain.
Mais enfin, je pense qu'au départ, nous étions tous surpris. On ne comprenait pas, vous savez, toute cette guerre culturelle. En France, on n'a jamais accepté l'idée qu'elle existait. Et à tel point qu'il n'y avait pas à l'université ou dans les écoles de guerre ou dans tout ce qui était études des stratégies en tout genre, du management au commerce et au reste. L'idée qu'il y avait une guerre, qu'il existait une guerre culturelle, n'était pas acceptée en France. Or, la guerre culturelle, elle est vraiment une des caractéristiques du XXe siècle. C'est-à-dire, on ne peut pas gagner une guerre si on ne gagne pas aussi la guerre commerciale et aussi la guerre culturelle. Alors, oui. Donc, en France, on avait un immense retard pour des tas de raisons que je n'expliquerai pas ici et on ne peut pas toutes les expliquer. Et c'est que nous, artistes, on a été pris là-dedans comme dans un filet. Et on ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Sauf qu'on se posait des questions, on commençait à se poser des questions et à regarder de près les événements, les enchaînements, les discours. Et c'est, je pense, Christine... D'ailleurs, quand on s'est rencontrés, Christine et moi, à la fin des années 90, on se posait les mêmes questions.
Et, je crois que c'était en 96, oui.
Donc vous étiez toutes les deux artistes ou vous pas encore?
Non.
Mais Aude, oui. Aude
oui,
était...
oui, oui, oui. Non, mais moi, simplement, ce qui m'intéressait, c'était... Enfin, je pensais que pour une formation d'histoire de l'art, il fallait effectivement... Enfin, vous n'imaginez pas un commentateur de football qui n'ait jamais tapé dans un ballon. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et j'ajouterais même, là, je m'alignerais sur Alain Besançon qui a eu la gentillesse de reconnaître... Enfin, nous sommes devenus amis à la suite des mirages de l'art contemporain, et Alain Besançon disait qu'il faut aussi faire de la théologie.
Oui.
Et Alain Besançon lui a demandé de participer à la revue Commentaire.
Oui, tout à fait.
Qui était une des revues, disons, universitaires et
intellectuelles
très importantes. Voilà, et donc il n'y avait rien sur un examen de la culture ou de tout ça, et il a demandé à Christine de remplir ce vide, si on peut dire. Même si Christine n'était pas une universitaire, il faisait appel à elle pour...
Oui, oui, mais c'est effectivement, c'est l'une des qualités de Commentaire, c'est de faire ça, effectivement, de ne pas rester dans un petit milieu fermé. Et vous,
voilà,
alors...
Alors, nous ne sommes pas les seuls, parce qu'il y avait d'autres gens qui se posaient des questions. Et finalement, ce qui a été cette aventure, ça a été qu'on s'est découvert peu à peu les autres. On s'est rencontrés. Et nous avons donc eu des échanges, des conversations. Mais pourquoi si, mais pourquoi ça? Et il y en a un qui expliquait d'une façon, l'autre d'une autre. Et en réalité, on s'est, disons qu'il y avait des dissidences, dans la mesure où on n'entrait pas dans le discours, on ne le partageait pas et on avait une attitude critique. Et peu à peu, disons, il y a une sorte de dissidence de fait qui a continué à examiner. Mais il n'y a pas chez nous une idée de... Il n'y avait pas chez nous une idée de guerre, de combat, de bataille. On a simplement voulu rendre clair toutes ces manipulations, et pour nous libérer d'abord nous-mêmes, et nous étions la plupart du temps des artistes. Mais aussi, après tout, quand on commence à comprendre, on a eu envie d'écrire.
Oui, est-ce que...
Donc, en fait, on a mené la bataille de la plume d'une façon tous individuelle, mais reliée les uns aux autres par des échanges et une réflexion commune.
Mais est-ce que...
D'ailleurs, nous étions tous d'horizons. Nous étions tous d'horizons très différents.
Très différents, oui.
Il n'y avait pas de question de politique dans cette réflexion, sauf qu'on voyait tout le monde comprenait la récupération politique de quelque chose qui en France était l'art et que l'art devait être en dehors de ces choses-là. Voilà, c'est ça qui nous a choqués, qu'on soit à droite, à gauche ou au centre. Ce qui nous choquait, c'est qu'on puisse vouloir récupérer l'art comme une arme de guerre, quoi.
Oui, mais enfin, de facto, si on se souvient, et moi je suis assez vieille pour m'en souvenir, de 1968, je me souviens parfaitement que l'un des premiers actes des... Alors moi, j'étais pas très grande, mais un des premiers actes des au lycée de ceux qui faisaient la grève et qui étaient, etc., c'était de mettre au mur des trucs qui ressemblaient à des grosses crottes en nous prétendant que c'était de l'art. Moi, je m'en souviens très bien. Donc, il y a quand même un aspect politique.
Alors que les affiches, les fameuses affiches de l'Atelier des Beaux-Arts en 68, bon, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec leur message, mais visuellement, elles étaient très réussies, elles étaient très percutantes.
Moi, je n'ai pas vu ça, j'ai vu...
Moi, j'avais discuté justement avec un certain nombre de personnes qui étaient des artistes et qui donc étaient plutôt à gauche, hein, là, il n'y a pas de souci. Bon. Et ils disaient, mais encore à cette époque... Même s'il y avait différents courants, différentes chapelles entre nous, et Dieu sait si on est à couteau tiré, si vous voulez, avec celui qui a une toute petite différence politique avec vous, c'est encore pire peut-être que celui qui est en face. Bon, bref. Mais ils étaient capables de dire, machin, il n'est pas de notre bord, mais alors son affiche, elle est réussie. Ce qui veut dire qu'il y avait encore des critères visuels d'appréciation, vous voyez, en 68.
Possible, hein, moi je n'ai vu que la base, moi.
Nous, on allait se promener le soir pour aller voir les nouvelles affiches.
Oui, il y en a de très, très réussies. Hein, très, très réussies. Hein,
c'est le fruit d'enseignement passé.
Celle qui montre De Gaulle, qui a un corps constitué d'une télé, etc. Enfin, c'est visuellement, c'est percutant.
Et elles étaient faites à l'Atelier des Beaux-Arts. Mmh.
Enfin, il y avait non seulement ce désir de bouleverser qui est propre à 68, mais il y avait aussi, et ça, vous en parlez, mais on n'aura peut-être pas le temps d'arriver jusqu'à la fin du livre, mais aussi une volonté délibérée de certains artistes d'écarter le laid comme étant, d'écarter le beau comme étant un truc que les peintres ont utilisé dans tous les sens pendant des siècles, et maintenant il faut passer au laid. Il y avait quand même ça.
Tout à fait.
Chez Picasso, notamment, il l'a écrit même. Je ne sais plus dans quoi j'ai lu ça, mais il a écrit que bon, il fallait.
Mais ça, c'est dans. Ça, c'est un débat moderne, mais nous, dans le débat postmoderne, c'est-à-dire celui de l'art contemporain, c'est encore autre chose. C'est la diabolisation du beau.
Oui, mais c'est pas très loin.
La moralisation et la moralisation de l'art.
C'est pas très loin.
C'est pas très loin. Non, entre tout ce qui
non,
s'est
parce
passé
que
dans
quand vous diabolisez le beau. Vous diabolisez toute l'histoire, tous les siècles, puisque la beauté était présente au XVIIe, au XVIe, etc. Bon, Picasso, il discutait avec... on apprécie, on n'apprécie pas ce qu'il en a fait, mais il discutait avec les maîtres. Hein. Il y a eu des expositions Picasso et les maîtres. Là, il y a vraiment une volonté. Vous savez, c'est la fameuse phrase de Buren qui cite, alors merci, hein, je cite de mémoire Rembrandt, Titien, Pollock, etc. Enfin, il cite une brochette d'artistes. Merci donc à tous ces gens-là de nous montrer ce qu'on ne doit plus faire. Bon, on peut dire, c'est normal, ils l'ont fait, on va pas recommencer. Et mais il ajoute, et qui n'aurait jamais dû être fait d'ailleurs. Si vous voyez la barbarie de la phrase, là, il y a une volonté d'éradication, c'est Attila, c'est vraiment, on brûle les musées. Hein, c'est...
Le même dont on a pris les colonnes pour orner le ministère de la Culture.
Tout à fait.
C'est quand même intéressant.
Ouais.
Mais donc
il faut comprendre une chose, c'est que la postmodernité, je dirais, c'est le contraire de la modernité. Ça paraît incroyable, c'est pas un excès de modernité, c'est le contraire de la modernité, parce que les philosophies, les théories, les idéologies qui sont derrière ne sont pas des idéologies de rupture, ce sont des idéologies d'inversion.
Oui,
oui c'est...
Et c'est du tout la même chose.
C'est comme ça fonctionne comme trop d'impôts tue l'impôt, trop de modernité dans la postmodernité tue la modernité d'une certaine façon.
Absolument, et l'inversion c'est d'un autre ordre. Bon,
alors,
écoutez, je rigole parce que je m'occupe de mon petit fils qui, avec des cubes, alors on passe du temps à monter des tours, etc. Il n'est pas bien grand, il a un an et quelques, deux, trois mois, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, tout petit, petit. Dès qu'on est arrivé à faire ses heures, eh bien je vois à chaque fois il prend tout, il le renverse et il hurle de rire en donnant des coups de pied dans, dans la construction qu'on a faite. Et je me dis, ça, c'est quelque chose d'anthropologique.
Certes.
Quand même, c'est choquant, si vous voulez, de voir ça. Le bonheur qu'il a eu à détruire ce qu'il a eu, et le bonheur de construire. Bon. Alors, je me dis, bon, là, il y a quelque chose de naturel, curieusement. Ça me donne à réfléchir. Mais à l'inversion, c'est autre chose. L'inversion, c'est diabolique, dans un sens. C'est d'un autre ordre.
Absolument, c'est ce qu'on a vu dans les expositions récentes d'une certaine Suissesse qui voulait nous faire croire que la fellation que fait un enfant à un adulte, c'est le rapport de la force à la faiblesse. Voilà, c'est un petit peu, on est dans un monde un peu bizarre. C'est un petit peu fort là, vous êtes peut-être tout près de votre téléphone.
Oui, je dois peut-être éloigner.
Un tout petit peu, parce que ça, voilà, c'est très fort. Alors, vous n'échapperez pas à ma question. Vous savez, je suis têtue. Et même quand j'ai des invités qui sont récalcitrants, vous n'échapperez pas à la question que je veux vous poser. Est-ce que vous avez pris conscience de tout ça? Et parce que vous étiez artiste et que vous voyez bien que n'était plus du tout privilégié le savoir-faire, mais quelque chose qui ressemblait à une mode, ou est-ce que...
Le faire savoir plutôt que le savoir-faire.
Oui, c'est ça. Est-ce que ça vous a touché personnellement dans vos études, puisque vous êtes à la fois graveur, peintre, etc., ou pas du tout?
Ah ben, je pense que la raison pour laquelle je me suis intéressée à ça avec beaucoup de sérieux, c'est-à-dire que observer, lire tout ce qui sortait, de comprendre l'adversaire aussi, parce que pour pouvoir comprendre, il faut s'intéresser à l'adversaire. J'ai fait tout ça tout simplement aussi pour me sauver.
Oui.
C'est-à-dire que comme artiste, quand vous vivez dans une époque où le talent, on ne cherche pas des talents, on cherche des profils,
c'est ça.
où la beauté est diabolique, où l'inspiration c'est un mot qui n'existe pas, où, enfin bref, tout ce qui me fait vivre à l'atelier est nié, le moyen de s'en sortir, c'est de comprendre comment on est manipulé, pourquoi, etc. Et c'est vrai que ça vous libère.
Oui, parce que tout
ça... Ça libère profondément quand on sait comment
bien
ça marche.
Sûr, oui,
c'est-à-dire
oui.
que ben, je continue mon travail à l'atelier sans me préoccuper de savoir si c'est bien ou mal, ou si le ministère trouve ça... mettrait l'étiquette art en dessous ou rien. C'est-à-dire
c'est
que je ne... Ça vous libère intérieurement profondément.
Oui,
et puis après, on a envie de partager aux autres en disant « mais vous ne faites pas avoir ».
Oui, c'est ça, exactement, tout à fait.
Oui, parce que ça fait de la casse, hein, psychologiquement.
Ah bah bien sûr.
Nous avons connu un artiste qui s'est pendu dans son atelier, hein, c'est quand même, ça a été jusque-là.
Oui.
Parce que, bon, avoir du mal à vivre de son art, ça, c'est pas nouveau, on en trouverait des exemples dans les siècles passés. Mais là, se trouver ringardisé, méprisé, voire même fascisé, parce qu'on est, quelqu'un qui travaille avec ses mains, c'était quand même assez nouveau.
C'est ça, c'est pour ça que je pose...
Il y a eu beaucoup de malheurs, ça a entraîné énormément de malheurs.
Je crois que c'est je ne sais plus quel grand journal avait titré à un moment donné, en disant qu'il y avait un articide qui s'était produit en France. Mmh. Et je crois que c'est vrai.
On était le pays qui accueillait tous les artistes du monde. On était le pays qui était un peu le centre du monde dans le domaine de l'art. Et nous ne le sommes plus déjà. Dès que ces autres politiques ou idéologies ont été appliquées, la France a perdu totalement son rayonnement.
Oui. Il faut dire, Aude, ce que vous répétez souvent, c'est-à-dire que la France, du temps de l'école de Paris, et puis la première et la deuxième école de Paris, ne s'est jamais portée aussi bien, et c'est un moment où l'État, finalement, était en retrait. Et depuis que l'État revient avec ses gros sabots...
Et c'est daté d'une façon extrêmement précise.
Ouais.
1981, avec une systématisation à partir de 1983.
Voilà, donc c'est pour ça qu'on n'est jamais loin quand même du politique. Et moi, je vous posais cette question parce que moi, qui ai toujours pratiqué des arts mineurs comme l'aquarelle, mais qui n'ai pas fait une carrière dans ce domaine, moi, ma réaction à moi et à beaucoup de gens, finalement, ça a été, l'art, c'est terminé. Donc, on n'en est plus. Je suis allée une fois à une exposition j'ai vu des Tampax par terre avec, vous savez, leur petite queue,
etc.
Et c'était pas marqué des souris, mais enfin, c'était un peu l'idée, quoi. J'ai eu envie de vomir et je suis sortie. Donc, je n'ai plus jamais, depuis, mais pour moi, c'était fini, quoi. L'art n'existait plus, sauf des amis, heureusement, j'ai des amis peintres véritablement contemporaines, c'est-à-dire encore vivantes, et qui font de très beaux tableaux, ou comme Aude, de très belles gravures, etc. Heureusement, parce que sinon... je pense qu'une dimension manquerait totalement à notre génération.
Et alors là, il faut, oui, Aude, il faut préciser que c'est une caractéristique française. Parce que ça, à ce point-là, c'est malheureusement une caractéristique française à cause du rôle de l'État. Il y a eu d'autres pays, même aux États-Unis ou en Chine, ça ne s'est pas du tout passé comme ça.
Aux États-Unis, oui, pourtant, ils sont très...
Oui, mais vous pouvez avoir des musées où vous êtes consacré au cubisme chez les Afro-Américains, etc. Il y a tout est représenté.
Tous les courants sont là-bas.
Voilà.
On ne vous dit pas exposition d'art.
Il n'y a pas que Kunz, si vous voulez. Tandis que nous, il y a eu ce primat donné à cet art très, très contemporain qui a écrasé tout le reste.
Alors, est-ce
mais
que
ça
vous...
va très loin, parce que nous sommes le seul pays au monde où ça s'est passé comme ça.
Bah quand même l'Angleterre, non? Parce que le marché de l'art en Angleterre...
Non. Dans l'Angleterre, vous avez tous les courants. Vous avez tous les courants en Belgique, en Italie, aux États-Unis, en Chine, etc.
Oui, mais alors, le marché
même
de l'art...
Même en Russie.
Le marché de l'art dont vous parlez, il est quand même international. Donc, une exposition va aller à Paris, à Londres, à... Non?
Attendez, il y a plusieurs niveaux du marché de l'art. Vous avez... Le marché de l'art, le seul qui a une grande visibilité et qui est coté, c'est le très haut marché. Et jusqu'à une époque récente, idéologiquement contemporain, art contemporain, c'est-à-dire conceptuel. Mais c'est uniquement le très haut marché. Et le très haut marché, ça commence à 100 000 euros. Le reste, tout ce qui est en dessous, n'a pas d'intérêt. Il existe un marché, je dirais invisible jusqu'à une époque récente, qui est le marché normal, qui va de 50 euros à 100 000 euros. Mais disons que les œuvres les plus, la plupart du temps, les œuvres tournent autour de 1 000, 5 000, 10 000 euros.
Maximum.
Vous voyez, c'est pas. Et c'est un marché qui est abordable. Et c'est un marché qui fonctionne à l'offre et à la demande. Le marché d'art contemporain, le très haut marché d'art contemporain, est un marché financier dont les principes sont de cotation et de fabrication de la valeur sont totalement d'un autre ordre.
Oui, mais
deux mondes.
Oui, mais est-ce que c'est pas ça qui est le plafond de verre précisément qui ne permet pas à des artistes qui sont contemporains mais figuratifs par exemple d'émerger? Est-ce que c'est pas ça quand même qui les bloque puisque
non, ce qui nous a bloqué et surtout en France parce que ça a été beaucoup moins le cas dans les pays qui nous entourent, ce qui nous a bloqué, c'est qu'en France il n'y avait aucune visibilité, aucune, vous m'entendez, autre que celle de l'art validé par l'État et par le très haut marché.
Oui, mais vous pouvez aller à l'étranger dans ce cas-là.
Vous ne pouvez pas.
C'est facile à dire.
Ben oui, beaucoup d'amis vivent de leur vente à l'étranger, oui, absolument. J'ai des amis aussi chinois ou sud-américains qui viennent travailler ensemble et qui en France parce qu'ils aiment les échanges, la vie intellectuelle, etc. et qui vivent de leur art vendu dans leur pays ou à l'étranger. Ça paraît hallucinant, ça paraît pas croyable, mais c'est vrai. C'est-à-dire que en France, la colonne de la critique d'art a disparu de tous les journaux. Et ça, c'est pas du tout un hasard, je vous le dis tout de suite, à partir de 1992. À partir du moment où vous ne sortez pas de votre cercle d'amis ou de connaissances proches, etc., parce qu'il n'y a pas de visibilité ni à la radio, ni à la télévision, ni dans les journaux, eh bien, disons qu'économiquement, une galerie ne peut plus vivre.
Et économiquement, c'est difficile. Et puis également, pour trouver l'inspiration, vivre, etc., un artiste a besoin d'avoir la respiration d'une exposition et puis les réactions du public, etc. Il faut qu'il soit montré.
D'amener un public, voilà. Et d'amener un public qu'il ne connaît pas.
Voilà, tout à fait. Et ça a été, effectivement, vous aviez le droit d'exposer, il n'y a pas un problème, mais dans votre salle de bain. Donc, c'est quand même un peu limité. Comme...
non, ou en payant.
Voilà.
Même en payant. Elle comptait en fait sur l'achat de vos amis.
Ouais, donc c'est.
Mais on peut pas créer une économie autour de ça parce que bon, au début c'est bien, vos amis vous achètent ou vos proches, mais à partir d'un certain moment, c'est bien pour le démarrage d'un jeune artiste. Mais à partir d'un certain moment, s'il n'y a pas une notoriété plus large,
une ouverture, marche plus.
Si vous voulez, le système qui a été en France est un système qui fonctionne sans public. Les achats qui se font par les fracs, les dracs, les expositions dans les centres d'art contemporain,
oui,
etc.
Oui, ça, c'est sûr.
Tout ça est payé, subventionné, et n'a pas besoin du public. L'État l'a déjà reconnu et
financé.
Bon, et ça est financé. Bon.
Voilà, donc à l'origine de ça, on trouve la subvention. Oui, c'est ça. C'est toujours dans tous les domaines, c'est terrible ça. C'est fou.
Et d'ailleurs,
pour les associations.
Ouais. Que tout est payé parce que le public n'y va pas spontanément.
C'est ça,
c'est-à-dire
ouais.
Que il n'y a pas le désir de découvrir, il n'y a pas le désir de trouver une œuvre qui rentre en relation avec vous. C'est-à-dire, il y a cette rencontre de l'œuvre et de celui qui.
Bah oui, bien sûr, bien sûr. Alors, à propos de public, j'ai donc quelques questions que je voudrais lire avant la fin de cette émission qui, malheureusement, approche de minute en minute. Alors ça concerne plutôt la première partie. Satan était le plus beau des anges avant sa chute. Après qu'il se soit opposé à Dieu, il a été débranché, entre guillemets, ne voulant pas faire le plan de Dieu. Et il a dit « non serviam ». Voilà, ça touche les questions qu'on a évoquées tout à l'heure. Alors, plus directement, sur ce qu'on est en train de dire. Alors, il y en a qui font de l'humour, ils aiment bien. Bonjour, les hommes de la préhistoire ont fait de l'art car c'était pour raconter leur histoire, bien courtoisement. Et d'autres, un autre peut-être d'ailleurs, à moins que ce soit le même. Bonjour, merci pour cette émission très intéressante. Expliquez-moi pourquoi le peintre Picasso est de l'art. Pour moi, c'est une arnaque et Picasso a fait pas mal de peintures pour le fric, bien courtoisement. Voilà. Donc, de l'humour pour démarrer, c'est-à-dire l'histoire de la préhistoire, ben on ne sait jamais, hein, peut-être qu'il s'est passé des choses que nous ignorons totalement et qui n'ont jamais été effectivement transcrites. Et alors, pour Picasso, ben, dans votre livre, donc Christine Sourgens, L'anatomie de la beauté, à la page 132, je crois, oui, vous parlez justement de Picasso. De la beauté idéologique, je ne sais pas d'où je sors, j'ai noté cette expression, mais je ne sais pas, j'ai noté la beauté idéologique, Normal Sup Lyon 2015, lire les artistes communistes et ajouter Picasso. Donc mes notes ne sont pas extrêmement claires.
C'est votre note, oui, parce que ça,
voilà.
Oui, oui. Non, c'est un colloque, j'ai dû faire une citation sur autre chose, je crois que c'était sur les fresques d'Amérique du Sud, il me semble.
Non,
le problème de Picasso, c'est qu'il y a plein de Picasso. C'est-à-dire quand les gens disent « je n'aime pas Picasso », et que par exemple on leur montre des dessins de Picasso, il y a des dessins de Picasso qui sont absolument magnifiques.
Bien sûr, sa période bleue et rose.
Voilà, ou même certains tableaux cubistes qui peuvent être tout à fait passionnants. Et les Demoiselles d'Avignon, contrairement à ce qu'on... Évidemment, on en fait un parangon de modernité et le coup de lancement du cubisme. Mais quand on lit ce que Malraux raconte de Picasso qui rencontre les masques africains au Trocadéro, etc., et qu'il est fasciné par les fétiches, et Picasso, enfin Malraux fait dire à Picasso que les Demoiselles d'Avignon ont dû arriver ce jour-là, non pas à cause des formes, mais parce que c'était ma première toile d'exorcisme, je cite. Donc c'est là qu'on voit que c'est plutôt quelque chose qui est référé au primordial, hein, quand je parlais de ces registres de beauté. Et le problème du primordial, si vous voulez, c'est que chaque registre, si vous voulez, ça peut donner de la beauté ou pas. C'est-à-dire que le primordial peut donner de la beauté ou pas. Et parce que ce que veut le primordial, c'est être là. Hein. C'est pas forcément être beau, c'est être là.
Bien sûr,
quelque chose
sûr.
Qui, voilà.
Mais du reste,
c'est le tutélaire, l'archaïque, l'immémorial, etc., qui veut être là.
Je crois que grâce à Picasso, dans un certain sens, on a découvert l'art africain, mais personnellement, je préfère l'art africain à Picasso, vous voyez.
Ou l'art ibérique.
Je préfère que ce soit direct.
Picasso se référait beaucoup à l'art ibérique. Également.
Mais quand il disait quand même, alors ça, je ne sais plus où je l'ai lu, quand cette pauvre femme dont il avait fait le portrait et qui était désespérée, et où il lui expliquait que c'était très bien d'avoir mis l'œil à la place de l'oreille et le je sais pas quoi. À la place, j'ai lu pas mal de choses quand j'étais à Biot dans le Midi, puisqu'il y avait beaucoup de livres sur Picasso. Et c'était quand même assez étonnant, ce parcours. Là, quand même, il y a une idéologie, on ne peut pas le nier. Il ne l'a nié pas, d'ailleurs.
Oui, non, mais attendez, ce sont des êtres de peinture. Au bout d'un moment, il prend dans le réel de quoi fabriquer des êtres de peinture.
Oui, mais enfin, c'est...
On parlait de Aude, tout à l'heure, disait de ces philosophes du début du XXe qui ont un peu renouvelé le débat sur la beauté. Il y a Gilson qui a beaucoup réfléchi là-dessus et qui dit que les œuvres d'art ajoutent de l'être à l'univers, et, tandis qu'une découverte scientifique n'ajoute que de l'intelligible. Et Gilson allait très loin puisqu'il disait que la Divine Comédie, c'est un gain et pas le discours de la méthode. Bon. Alors que je crois qu'il avait fait sa thèse sur Descartes, il me semble. Bon. Donc, c'est quelque chose qui... J'aimerais terminer là-dessus parce que, par exemple, Arras va dire qu'une peinture pense, mais de façon non-verbale, non par des concepts, mais par des figures... Et qu'au-delà des conditions historiques de la pensée de son temps, les Ménines, il prenait l'exemple des Ménines de Velázquez, telles que nous les voyons aujourd'hui, elles pensent toutes seules et indépendamment de ce qu'a pensé faire Velázquez. C'est extraordinaire. Hein, donc, on a.
Bien sûr,
arrive,
non, mais bien sûr.
Voilà. Ce que je voulais arriver, c'est à une conception du beau qui n'est pas une notion sèche, abstraite, dogmatique, mais une conception presque organique, vitale. Hein. Et alors, bien sûr, c'est pas l'œuvre d'art n'est pas un organisme vivant comme vous et moi. Et d'ailleurs, Gilson parlait d'un monde poétique composé d'êtres poétiques qui résidaient non pas dans le monde de la nature, mais qui étaient distincts de lui. Hein, et c'est pour ça que j'ai proposé à la fin non pas une définition de la beauté, parce que dans définition il y a finir, mais plutôt une caractérisation de la beauté en disant que c'est une expérience qui est perceptive, donc elle passe par les sens, le corps. Et en même temps, elle est existentielle parce qu'elle est révélation d'un rapport singulier au monde et à l'être. Alors, ce monde et cet être, ça peut être le nôtre, ça peut être l'être en général, ça peut être l'être divin, comme vous voulez ou comme vous pouvez.
Alors, pour finir, puisque nous arrivons à la fin de cette émission, pour faire plaisir à notre auditeur, auquel je partage le peu de goût pour le nihilisme contemporain, vous citez aussi Nietzsche qui envoie aussi la beauté paître, je voudrais faire cette citation qui se trouve aussi dans votre ouvrage. Le beau confère la joie dans l'acte de connaître et cette joie favorise l'adhésion au vrai. Voilà, moi je voudrais rester dans ce que la beauté nous a permis à la fois de joie et à la fois de connaissance.
Catherine, voilà. Est-ce que je veux juste préciser que donc Bienfait du Beau, le troisième livre, va sortir le 18 et je ferai une conférence de présentation à la librairie Bollen, qui est 41 rue de Bourgogne à Paris, le mardi 24 mars à 17h précise. Une conférence qui est gratuite, mais il faut réserver par mail. Donc vous allez sur mon blog c'est sourgins.fr, donc sourgins.fr, et vous verrez, il y a une rubrique conférence dédicace, et là vous pourrez réserver.
Parfait, merci beaucoup Christine Sourgins, et merci à Aude de Kéros, bien que nous ne l'ayons pas vu physiquement, ce qui est, mais j'ai bien compris, c'est à cause du petit-fils, donc on va vous pardonner.
Ah non, pas du tout, c'est parce que j'ai... Même en vérifiant ce matin, j'étais sûre que c'était demain. Voilà.
D'accord, très bien. Bah, écoutez, merci infiniment toutes les deux. Et donc, bonne lecture, chers auditeurs. Anatomie de la beauté, Christine Sourgins. L'art contemporain, manipulation géopolitique de Aude de Kéros.
Vous venez d'entendre La tête hors de l'eau dirigée par Catherine Rouvier, diffusée en direct sur Radio Courtoisie mercredi 4 mars 2026 de 14h à 15h30 et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix fonds de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.